Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Oui !
Bienvenue chers auditeurs et auditrices. Les médiathécaires de la ville de Bourg-en-Bresse vont vous présenter leur coup de cœur. Pour ma part, je vais vous parler du recueil de poésie « Lettres à l'abandon dans un jardin » de Joël Vernet. Vincent vous emmènera au cœur des années 70 avec le film « Soko et Vincetti », tandis que Fatih optera pour le livre « Zéro sucre et IGBA, le déclic santé pour réussir un rééquilibrage alimentaire ». Enfin, Marjorie vous parlera du roman historique « Le bureau des éclaircissements des destins » de Gaëlle Nohan. Connaissez-vous Joël Vernet ? C'est un auteur de la poésie française qui a grandi au Puy-en-Velay. Au cours de ses voyages et de ses rencontres, il s'adonne à la poésie. C'est un auteur très prolifique qui a écrit de nombreux recueils. « Lettres à l'abandon dans un jardin », un recueil publié en 1994, a été un véritable coup de cœur pour moi. Ce recueil est composé de 3 poèmes en prose. « Lettres à l'abandon dans un jardin »,« Demeurer au désert »,« Demeurer au secret » et « Il brûle le feu de notre vie ». Le premier est mon préféré, car l'auteur nous invite à faire une pause dans notre vie pour contempler ce jardin. Nous découvrons alors l'admiration de l'auteur pour ce jardin, mais aussi pour les livres, qui, selon lui, nous accompagnent tout au long de notre vie. Le but de l'auteur n'était pas d'écrire sur les jardins. Il le dit lui-même. L'écriture était lointaine, comme un abandon, une absence, mais surtout pas une douleur, une souffrance. Je n'écrirai pas, et alors ? Le fait de contempler ce jardin lui a permis finalement d'écrire et de nous partager ses ressentis. Ce que j'aime dans ce poème, c'est qu'il nous transporte dans ce jardin avec lui. Nous sommes dans cette contemplation, nous voyons les choses qu'il décrit. Il utilise la prose pour décrire les sentiments qu'il éprouve. Sa plume est douce et sensible. L'énergie poétique se dégage des vers comme une musique envoûtante. Dans son poème, il brûle le feu de notre vie. Joël Vernet nous fait l'éloge du temps qui passe et de la joie qui réside dans nos cœurs. Ce poème est comme une ode à la vie. Il nous emmène de nos plus vieux souvenirs au temps présent. Je vous conseille ce livre de poésie très accessible si vous ne connaissez pas ce genre. La prose rend la lecture facile, comme un roman. De plus, ce livre est illustré par un de ses camarades, Jean-Gilles Bader. Ses dessins accompagnent les textes « Demeurer au désert »,« Demeurer au secret ». Ce sont des illustrations en noir et blanc. Je vais maintenant vous lire un extrait. Écrire sur le jardin n'est pas une trop haute vanité, une ambition dérisoire ou, plus simplement, une aventure inutile, diabolique. Vanter, chanter les fleurs, les herbes au moment où le monde est en instance d'implosion. Chanter la paix au moment où s'impose la guerre, de toutes parts. N'est-ce pas pure fantaisie ou bel aveuglement ? Le jardin, peut-on admettre le jardin comme une matière à rêverie ? Notre doute est vaste. Notre doute a le visage contre le mur. Notre doute, pourtant, guide bien et bel et bien le courant de cette lettre, les méandres de ces ruisseaux, les soupçons inquiets de leur berge. Nous voudrions, tant que les bruits du monde, ces frissons intolérables, orientent le sens d'une telle lettre. Ne sois point invincé du souci d'écrire qui n'est ni plaisir ni labeur. Vous pouvez retrouver ce livre à la médiathèque Vaillant. Je vais maintenant laisser Vincent nous parler de son film.
Here's to you, Nicola and Bart.
Vous avez très certainement reconnu le tube planétaire interprété par Joan Baez en 1971, Here's to You. Ça vous rappelle peut-être même des souvenirs de slow dans des bals de village ou des soirées passées entre amis à griller des chamallows autour d'un feu de camp. Mais les plus jeunes d'entre vous ne savent peut-être pas qu'avant de devenir un tube planétaire, cette chanson était au générique d'un film de Giuliano Montaldo sorti la même année, Sacco et Vanzetti. Ce film relate l'histoire vraie de deux Américains issus de l'immigration italienne, les fameux Nicola et Bart de la chanson, respectivement cordonniers et marchands de poissons dans le Boston des années 20. Tous deux anarchistes, ils seront accusés du meurtre de deux hommes commis au cours d'un hold-up et condamnés à mort par la justice américaine. Malgré l'argumentation solide de leur avocat qui va tenter de prouver leur innocence et les manifestations de soutien provenant du monde entier, Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti vont mourir sur la chaise électrique en 1927, quelques années après leur arrestation. Pour comprendre les ressorts de cette machination judiciaire, il faut replacer cette affaire dans son contexte historique. Au sortir de la Première Guerre mondiale, l'instabilité économique des États-Unis entraîne de nombreuses revendications syndicales. Les travailleurs réclament une hausse des salaires et une réduction du temps de travail. Les grèves sont parfois violentes et s'accompagnent d'attentats anarchistes. C'est le début d'une période qu'on appellera « peur rouge », durant laquelle l'opinion publique stigmatise et les autorités répriment d'un même mouvement gréviste, communiste et anarchiste. La population étrangère surtout est regardée d'un mauvais œil. C'est d'elle que doit provenir le dérèglement de l'ordre social et économique. Sacco et Vanzetti, repérés par la police de Boston pour leur activisme politique, sont alors des cibles faciles. Ils sont immigrés, militants radicaux et favorables au terrorisme révolutionnaire. Il n'en faudra pas beaucoup plus pour les incriminer. Si le film demeure assez discret sur ce contexte historique, il retrace toutefois avec brio les étapes marquantes de l'affaire. Il s'attarde surtout sur la partie judiciaire et dépeint avec force le climat de xénophobie et de paranoïa anti-bolchévique qui régnait à l'époque au sein de la magistrature et dans une partie de la société. Dès la première scène du film, on ressent ce climat de défiance. Il fait nuit, la police s'infiltre dans un campement d'immigrés italiens et procède à une violente rafle. On recherche des coupables. Les journalistes sont là pour couvrir l'événement, les flashs au magnésium crépitent et aveuglent. Le spectateur ne tarde pas à comprendre ce qui se joue. La désignation publique et médiatique des coupables revêt un caractère éminemment politique et idéologique. C'est certainement la raison pour laquelle Sacco et Vanzetti deviennent vite et demeurent encore aujourd'hui deux célèbres allégories de l'injustice. Ils témoignent du rejet d'une société qui condamne des appartenances sociales et culturelles, des convictions politiques. Cette affaire, puis plus tard ce film, auront un tel impact symbolique dans la culture populaire que la musique de Joan Baez deviendra un hymne des mouvements pour la revendication des droits civiques. Sachez que vous pouvez retrouver ce film, Sacco et Vanzetti, à la médiathèque Césaire. Je laisse désormais la place à la prochaine chronique.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente le troisième livre de Bérengère Philippon, apparu chez Larousse. Tous les clés pour réussir son équilibrage alimentaire en toute sérénité. Si l'alimentation est la clé d'une bonne santé, il n'est pas toujours facile d'adopter les bonnes résolutions à cause de nos habitudes. Pourquoi surveiller l'indice glycémique dans nos assiettes? Consommer moins de viande? Végétaliser nos assiettes? Avoir une bonne activité sportive? Comment se motiver et éviter le craquage? Bérengère Philippon explique tout de façon très simple et visuelle, donne des astuces pour mieux réussir et propose 100 recettes faciles et gourmandes pour tous les moments de la journée. Bérengère vous aide à trouver le déclic pour réussir à changer d'alimentation durable et à retrouver son poids de forme sans renoncer au plaisir. À l'image des deux premiers ouvrages, ce livre de Bérengère est une troisième pipite. Plein d'infos de santé remarquables, illustrées par des schémas que l'on comprend dans un clin d'œil. J'ai aussi beaucoup aimé l'approche très positive pour se motiver à changer son alimentation et à se faire plaisir avec un budget très raisonnable. Habituellement, les livres qui parlent de régime, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais là, vraiment, j'ai été conquis, car il y a vraiment des recettes très gourmandes qui donnent très envie et je voulais donc vous les partager. Et voilà, à retrouver à la médiathèque Camus. Bonne journée.
Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un roman. Le bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohant. On suit l'histoire d'Irène, une jeune Française. Elle travaille aux archives Harolsen, qui ont été constituées après la Deuxième Guerre mondiale. Ces archives comprennent un centre de documentation, d'information et de recherche sur la Shoah et la persécution nazie. Elle se trouve à Bad Harolsen, d'où leur nom effectivement, en Allemagne, depuis 1948. Irène est à la fois archiviste et enquêtrice. Elle se voit confier par sa directrice la mission de restituer des objets retrouvés à la libération des camps nazis. Elle doit les restituer aux descendants des déportés de ces camps. Le lecteur va suivre les traces de chaque objet et de l'histoire qui lui est attachée. Il y a un pierrot en tissu, un mouchoir brodé, un médaillon. Bon, ce ne sont que des exemples. C'est un véritable travail d'enquête qu'Irène mène et pour lequel elle se voue entièrement. Gaëlle Nohant a délibérément choisi d'intituler ses chapitres avec un prénom, un prénom qui évoque la personne qui a déposé l'objet à l'arrivée dans le camp de concentration. Le fait de nommer chaque personne, une trentaine en tout, donne une humanité au récit. Irène doit retrouver l'identité des déportés qui possédaient les objets à restituer, puis suivre la piste de leurs descendants en espérant qu'il y aura quelqu'un au bout de l'enquête, quelqu'un pour qui la restitution de cet objet aura un sens. Ce travail d'enquête est essentiel et apporte beaucoup d'émotions. Irène ne sait jamais si cela va aider les descendants à faire le deuil de leurs aïeux. Mais Irène essaye vraiment de donner le plus possible d'éléments de réponse face à l'horreur commise dans ces camps. La composition du roman n'est pas un empilement d'enquêtes. Souvent, les histoires se font écho et parfois de manière assez inattendue. L'agencement des chapitres que Gaëlle Nohant a choisi donne beaucoup de lumière sur ces vies fracassées et tisse des liens entre le passé et le présent avec une grande intelligence, sans jamais sombrer dans le pathos. Malgré le caractère fictif des personnages, on a vraiment l'impression qu'ils ont existé. Ils sont là, vivants, réels. Ils ont un corps, une histoire, un cœur. Face à ces destins de ces personnages, Irène éprouve beaucoup de difficultés à s'extraire de ses enquêtes. On sent la fièvre qui s'empare d'elle lorsqu'elle s'approche de la vérité. On sent son découragement lorsque les pistes rencontrent un obstacle ou que la résolution de l'enquête s'avère plus ardue qu'elle ne le souhaiterait. Ce roman m'a fait vibrer d'une rare intensité émotionnelle parce que ce qui fait sa force, c'est que tout est juste, tant dans l'écriture de Gaëlle Nohant, sobre mais ciselée, que dans les propos pudiques et énergiques. C'est une réflexion puissante et limpide sur la mémoire et la transmission. En restituant ces objets sans autre valeur que sentimentale, Irène délivre les fantômes qui étaient emprisonnés. Gaëlle Nohant a trouvé l'équilibre parfait entre le romanesque et l'historique, sublimant ce dernier sans jamais le dénaturer ou l'atténuer. Ce roman constitue pour moi vraiment mon premier coup de cœur de ce début d'année. Voilà, donc là c'est fini pour cette fois. C'était les chroniques des médiathèques de Bourg-en-Bresse. N'hésitez pas à nous retrouver tous les quatrièmes mercredis du mois pour de nouvelles chroniques. À bientôt!
Tu t'ennuies?
Tu sais pas quoi faire?
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse!
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast. Wouhou !